fierté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libérant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir est une figure majeure de l'espace politique malien, brillante intellectuelle, mais aussi brillante écrivain, un écrivain prolifique, qui force l'admiration par la pertinence de ses idées. Ancien Premier ministre sous le magistère du président Ibeka, ancien maire de la commune 4 du district de Bamako, expert comptable, député, on peut même dire député spolié en 2020, candidat déclaré à la future élection présidentielle, élection présidentielle post-transition, et qui est aussi, il est aussi le président d'honneur du parti Yelema, vous l'aurez compris, notre invité, le Premier ministre, président d'honneur du parti Yelema, Moussa Mara. Moussa Mara, bonsoir.
Bonsoir à Taïr, bonsoir à nos auditeurs et félicitations à Djoliba pour tous les espaces que vous créez pour la libre expression, pour donner des opinions et contribuer au débat public. Bravo.
Merci Moussa Mara. Et nous tenons aussi, je tiens à vous remercier au nom de la rédaction, de l'ensemble de la rédaction de Djoliba TV News. Vous étiez l'un des premiers à monter sur le créneau quand Djoliba a été fermé et pour justement nous soutenir, nous apporter votre soutien et tout votre soutien. Donc, au nom de la rédaction, recevez le témoignage de notre reconnaissance.
C'était un agréable devoir. Défendre la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la pluralité d'opinion. Je pense que c'est le devoir de tout démocrate et la démocratie est ce que nous avons de plus cher dans nos contrées.
Okay, merci Moussa Mara, bienvenue. Comment vous portez? Comment se porte Moussa Mara?
Je pense que sur le plan de la santé, on ne se plaint pas. On porte fièrement nos 48 années et bientôt nos 49 ans. Sur le plan privé, familial, ça va, on ne se plaint pas, on se bat et on essaye de continuer à travailler sur le plan professionnel, malgré le contexte difficile. Parce que moi, je suis dans la profession libérale, je suis expert comptable. Nous avons des clients qui sont des acteurs économiques et quand les acteurs économiques ont des difficultés, nous subissons aussi ces difficultés. Donc le contexte n'étant pas facile, c'est pas évident, mais on se bat et on essaye d'être le plus compétent au service de nos clients, dans la mesure du possible. Donc, alhamdoulilah, on ne se plaint pas.
Merci beaucoup, Moussa Mara. On va parler des questions d'actualité, de l'EDM, de l'énergie du Mali, l'état de finances du pays, le dialogue intermalien proposé par le président de la transition, le léger report annoncé par le gouvernement de transition, mais aussi les arrestations des hommes politiques, arrestations d'activistes, et même dans le milieu religieux, la justice, la lutte contre la corruption. On peut parler aussi de la classe politique, le silence assourdissant de la classe politique, et puis de votre candidat, de votre vision pour le Mali. Donc, Moussa Mara, pour revenir à l'actualité, la dernière fois, vous aviez fait une conférence intitulée « Appel pour sauver la transition ». J'ai envie de vous demander pourquoi sauver la transition, où va la transition?
Sauver la transition parce que si la transition réussit, je pense que c'est le Mali qui réussira. Et qu'à Dieu ne plaise, si la transition rencontre des problèmes, c'est le Mali qui rencontrera des problèmes. J'ai senti mon devoir que de faire cette sortie en ce moment particulier pour demander et aux autorités de la transition d'une part et aux acteurs politiques, leaders de la société civile, personnalités maliennes d'autre part, de se rapprocher et de travailler ensemble pour que les difficultés que moi je vois venir, et certaines difficultés étant là, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes d'électricité, que nous puissions les aborder ensemble et faire en sorte que ces difficultés ne menacent pas la transition elle-même. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai cru nécessaire de faire cet appel, tenir cette conférence, Et évidemment, à la suite de ces initiatives, je continuerai à travailler à ce rapprochement et à ce rassemblement. Évidemment, rapprochement et rassemblement, sans parler de gouvernement d'union nationale, de donner des postes ou des responsabilités. Je pense que nous devons innover, trouver des solutions sans forcément chercher des avantages personnels.
Ok, trouver des solutions. Mais pour vous, trouver, aider la transition, c'est quoi exactement? Parce que lorsque vous avez fait cet appel, un internaute du nom de Tchao a dit que tous les Maliens, de quelque bord que soit, ont soutenu la transition. De quel soutien vous parlez exactement? Parce que pour lui, oui, les Maliens, dans leur grande majorité, ont soutenu ou soutiennent cette transition.
Oui, en fait, il y a une cible que moi je vise particulièrement, et vous là vous avez commencé par le dire, par exemple, la classe politique aujourd'hui, dans une grande proportion, elle est un peu sur sa réserve, sur la défensive. Alors que rien ne peut être fait sans participation de la classe politique. Il faut vraiment qu'on le comprenne, parce que les acteurs politiques ont des organisations, des structures et des militants derrière eux, et souvent en grande quantité. Même si on ne les voit pas, on ne les sent pas, ils existent. On ne peut pas faire comme s'ils n'existent pas. Vous avez des acteurs de la société civile qui sont dans la même situation, et vous avez d'autres personnalités qui, de par leur expérience, leur connaissance, peuvent aussi apporter. C'est un peu ceci que je cible en disant, ne vous asseyez pas, ne restez pas passifs, et laisser la situation aller de mal en pire. Et voire même, certains d'entre vous, ne pariez pas sur l'échec de la transition. On sent aussi, en discutant ici ou là, que certains, par dépit, par frustration, voudraient que la transition échoue. Et moi, je pense que nous devons absolument éviter qu'il y ait des problèmes pendant cette période.
Oui, mais est-ce que cette classe politique, est-ce qu'elle a voulu jouer ce jeu-là? Est-ce qu'elle n'est pas contrainte, par exemple, à être passive? Parce qu'avec les arrestations, on a vu beaucoup d'arrestations. Voilà.
Mm-hmm. Non, il est vrai, en fait, avant d'arriver aux arrestations, il y a plusieurs éléments qui expliquent la situation particulière de la classe politique. Le premier élément est que cette transition a été vécue par une bonne partie de nos compatriotes sur la base de manipulation, sur la base de conditionnement, fait souvent même par quelques acteurs politiques, comme la défaite de la classe politique. Et la classe politique a été un peu jetée en pâture aux Maliens. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'actions ces trois dernières années pour mettre en évidence que tout ce qui nous arrive de mauvais, c'est la classe politique. La classe politique doit simplement disparaître pour certains. Et ça a pris. Parce qu'énormément de Maliens pensent que ce qui nous arrive, la classe politique est responsable. La classe politique est en partie responsable, c'est tout à fait clair. Et en grande partie responsable, mais on ne peut pas dire que c'est seulement la faute des responsables politiques. Je pense qu'il y a d'autres explications. Deuxième explication, c'est que les partis, et c'est le cas de Yelema, à un moment ou à un autre, ont été assez divisés par rapport à la transition, avec des lignes de fracture très, très importantes. Donc, beaucoup d'acteurs politiques sont plutôt focalisés sur comment assurer la cohésion de leur parti, plutôt que d'essayer d'avoir des actions vis-à-vis de la transition. Après, il y a ce que vous dites, il y a la peur pour certains, il y a la peur d'être insulté sur les réseaux sociaux, parce que, quelle que soit la position qu'on prend pendant cette transition, vous trouverez toujours des gens, soit de l'intérieur, mais beaucoup de l'extérieur, qui vous insultent souvent dans des termes très, 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 très vifs. Donc, les gens ont souvent aussi la réserve d'éviter de se faire insulter. Et après, vous avez dit, il y a la peur, il y a tous ces risques-là.
Oui, on va parler de votre aussi, le léger report en lien, le léger report de la présidentielle en lien avec votre candidature. Il y a eu un report, léger report de la présidentielle, il n'y a pas de date. Vous êtes déjà déclaré candidat. Est-ce que ce n'est pas un pari déjà risqué, voilà. Vous dites vous voulez être candidat, est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que la transition se braque, peut-être sur vous, sur vos...
Je ne pense pas que nous soyons candidats contre la transition. La transition est une période. Les acteurs de la transition sont théoriquement neutres. Et les acteurs de la transition doivent créer les conditions pour le retour à leur constitution. D'ailleurs, le discours du président de la transition lui-même va dans ce sens. Nous avons fait des efforts pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons continuer à faire des efforts pour le retour à l'ordre constitutionnel. Notre candidature n'est pas contre qui que ce soit. Et notre candidature, ce n'est pas aussi de la précipitation. Je l'ai expliqué, les textes du parti Élément font que c'est un congrès qui détermine le candidat du parti. Et il se trouve que Élément a organisé justement un congrès, parce que les textes du parti imposent d'organiser un congrès périodiquement. Donc on a utilisé cette occasion pour faire la désignation du candidat, mais en étant très clair, en disant que les autorités ont reporté légèrement, selon elles-mêmes, les élections. Nous allons travailler avec elles, mais nous demandons à ce que l'ensemble de la classe politique, nous travaillons avec elles pour que nous fixions une date consensuelle. Et quand cette date consensuelle sera fixée, quelle qu'elle soit, en ce moment, les uns et les autres seront à l'aise pour continuer leur initiative. Nous ne sommes pas du tout dans la précipitation et nous sommes encore moins pressés pour aller dans ce sens-là.
Mais quand vous dites qu'il faut sauver la transition, est-ce que le fait est-ce que ça ne passe pas aussi par l'organisation des élections?
Et absolument.
Puis à ce moment-là, il faut absolument
presser
le pas, si vous n'êtes pas pressé.
Absolument, mais il faut le faire de manière consensuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez sur le terrain les autorités de la transition qui sont en train de diriger la transition. Il y a des acteurs importants qui manquent, dont la classe politique, dont la société civile, dont les personnalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense, par exemple, quand je pense personnalité, je pense aux anciens premiers ministres, je pense à un certain nombre d'autres acteurs. Je pense que le retour à l'ordre constitutionnel, si on prend ce cas de figure, ce sujet dont nous sommes en train de parler, ce retour à l'ordre constitutionnel, si on veut le faire de manière apaisée, sécurisée, comme les autorités de la transition le souhaitent, il faut qu'on le fasse de manière consensuelle. C'est ce mot consensus qui manque dans le discours des autorités de la transition. Parce que les acteurs du processus politique et du processus électoral doivent être associés au retour à l'ordre constitutionnel, à sa préparation et à sa réalisation. Donc il faut que nous le fassions. Et pour le faire, il faut que nous discutions. Si nous discutons et que nous nous entendons que, compte tenu du contexte, des réformes à faire, de certaines réalités de terrain, les élections, il faut le faire en 2025. Si on s'entend dessus, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Et pour s'entendre, il faut qu'on se parle.
Donc vous n'êtes pas contre une légère prorogation de la transition, non?
Surtout pas.
Au niveau des partis.
Nous sommes tous, tous les Maliens, je pense, pour un pays en stabilité, un pays en sécurité et un pays rassemblé. Nous le disons tous. Parce que c'est la condition sine qua non pour que nous espérions demain la prospérité. Et pour ça, il faut qu'on travaille ensemble, y compris avec les autorités de la transition. C'est pourquoi je dis que la transition doit réussir pour donner des chances à notre pays de continuer à espérer à des lendemains meilleurs.
Mais ceux qui disent qu'une transition de déjà de 3 ans, c'est pratiquement un mandat, ou un mini-mandat, par exemple. Parce que le mandat, c'est 5 ans, déjà 3 ans déjà. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Très sincèrement, Taher, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sur le fétichisme des dates. Aujourd'hui, la transition est à 3 ans et demi, on va dire ça. C'est bien ça, 2020, presque 2024. OK. Mais les 3 ans et demi sont derrière nous. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant, les semaines et mois à venir. Moi, je dis, les autorités de la transition doivent, c'est leur devoir, nous rassembler, nous écouter. Et quand je dis nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la classe politique, la société civile, les forces vives, pour que ensemble, sur cette dernière phase de la transition, quelle que soit la durée qu'elle prend, que nous nous entendions enfin. C'est la condition sine qua non pour obtenir la stabilité et la quiétude.
Oui, quand vous dites que vous vous entendez, s'entendre sur quoi?
Mais, par exemple, vous avez dit tout à l'heure, le retour à l'ordre constitutionnel.
Vous ne craignez pas peut-être un complot contre le peuple, par exemple, qui ne va pas participer à
un complot contre?
Contre le peuple,
par exemple. Mais non!
Vous allez vous entendre, vous, et la transition.
Attends, les forces vives dont je parle, ce sont elles qui représentent le peuple. Vous comprenez? En l'absence d'élection, nous sommes dans une période où personne n'est élu. Ce sont elles qui représentent le peuple. Aujourd'hui, vous prenez, comme je le préconise, non pas les 300 partis politiques, mais les 20 partis les plus importants. Je suis sûr que quand vous prenez les 20 partis les plus significatifs du Mali, ces partis représentent au moins 95% de l'électorat. Ça, c'est déjà des représentants. En termes d'élus, en termes de présence sur le territoire, en termes d'action par le passé, c'est de la représentativité. Okay. Vous prenez des corps constitués comme le Conseil national de la société civile, les organisations de la société civile qui sont en place pour soutenir et accompagner la transition. Il y a des organisations qui sont mises en place. Les syndicats, le patronat, tous ceux-ci sont les représentants du peuple. Donc, c'est cette émanation-là que moi, je pense aujourd'hui, la transition doit écouter, consulter et discuter. Et dans sa diversité, parce que cette émanation est très diverse et variée. Si ces discussions permettent aujourd'hui d'avoir un chronogramme précis vers le retour à l'ordre constitutionnel, en ce moment, il y a de bonnes chances que les Maliens, dans leur grande majorité, s'y retrouvent. Parce que les autorités de la transition aussi seront dans le consensus. C'est ce type de consensus que moi je souhaite, au lieu qu'un jour, nous voyons de manière unilatérale les autorités de la transition décider de dire nous voulons faire les élections à telle date ou nous ne voulons pas faire d'élections. Ça, ce ne serait pas consensuel et ce serait ni dans l'intérêt de la transition, évidemment, ni dans l'intérêt du pays.
Mais est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, ce n'est pas la première fois qu'on reporte les élections ou qu'on ne fait pas d'élections. Il y a eu 18 mois, après 24 mois, même si avec ce dialogue que vous proposez, mais si la transition ne veut pas organiser des élections, est-ce que vous ne serez pas à votre tour
volé aussi? Mais pas de procès d'intention. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention. Depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui, ce que je propose n'a pas été fait. La première fois où le chronogramme a été convenu, ça a été fait avec la CEDEAO. Le report et l'ajout de deux ans, ça a été fait avec la CEDEAO. Okay. Les Maliens n'ont pas été consultés. Le soutien important aux autorités de la transition.
La transition dit qu'elle a donné la parole aux Maliens à travers les assises nationales de la refondation. C'est ce qu'elle dit.
Oui, mais attention, et qu'est-ce que les assises ont dit? Admettons que les Maliens ont été consultés. Les assises ont eu lieu avant l'adoption du chronogramme, du second chronogramme. Je pense que vous suivez. Les assises, c'était à la fin de l'année 2021. Les conclusions qu'on a vues des assises, c'est on veut une prorogation de la transition sur une période de 6 mois à 5 ans. Ça, ce n'est pas une période. Sur la base de ça, les autorités de la transition ont commencé à discuter avec la CEDEAO. Et les assises, encore une fois, quand vous réunissez 2000 personnes dans notre pays, vous pouvez obtenir à peu près ce que vous voulez de cette réunion de 2000 personnes, parce que très peu de personnes ont la possibilité de parler le temps qu'ils veulent, on peut facilement obtenir de ça. Oui. Le type de concertation que je demande est mieux organisé et plus crédible, parce qu'elle réunit des acteurs qui sont au fait de la situation. Okay. Et la situation du pays, la situation de l'État et la situation des réformes et autres. Ouais. Et dans leur diversité, si ces acteurs s'entendent avec les autorités sur quelque chose, je pense que l'essentiel de notre pays s'y retrouvera. Maintenant, après, il s'agira, si nous nous entendions, il s'agira d'abord de parler avec la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est partie prenante du processus de la transition. Et après, c'est de conduire le processus pour arriver à son terme, qu'est-ce qu'il puisse être. Et là, moi, je ne vais surtout pas faire le procès d'intention en disant les autorités, à un moment ou à un autre, vont faire ci, vont faire ça. Okay. En ce moment, on verra.
Oui, monsieur le Premier ministre, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que si ces formats sont adoptés ou mis en œuvre, est-ce que ça ne serait pas une transition sans fin, finalement?
D'abord, ce que
je vous relance, parce que vous avez dit vous-même que cette transition, elle n'est pas issue du suffrage, que personne
ne veut dire,
mais que faire justement
pour... Je suis d'accord avec tout ça. Il faut sortir de ça, mais il faut le faire de manière consensuelle. Okay. C'est très facile de s'asseoir dans un studio, derrière des micros, et de dire il faut que la transition s'arrête dans 2 mois ou dans 3 mois.
On ne l'a pas dit.
Non. Oui. Ce que vous êtes en train d'essayer de dire.
Vous n'aurez plus parlé de salle, par exemple.
C'est très facile. Salle, studio, salon, ou tout ce que vous voulez, pour dire il faut que la transition s'arrête. Elle a trop duré, oui. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que ceux qui ont la chance ou qui ont eu la chance dans notre pays d'occuper des postes de responsabilité, d'être représentatifs, il est temps que ceux-ci se parlent. Et il est temps que ceux-ci, avec les autorités de la transition, conviennent de quelque chose. Mais on ne peut pas fixer quelque chose tout de suite. Il faut que ces discussions se tiennent. Et quand ces discussions aboutissent à quelque chose, cette chose-là, nous devons la suivre. Et nous ne devons pas le faire en disant les autorités de la transition vont nous rouler. Non. Moi, j'ai la faiblesse de penser que si on fait ce type de discussion, Ce sur quoi nous allons aboutir, en prenant en témoin l'ensemble de nos compatriotes, il y a de bonnes chances qu'on puisse le respecter.
Et si dans ce dialogue-là, les militaires décident eux aussi d'être candidats, est-ce que vous allez aussi accepter cette proposition?
Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, et les textes de la charte de la transition, et les textes de l'Union africaine, et les décisions de la CEDEAO, et la morale, j'ajoute la morale parce que c'est important, parce que les autorités de la transition ont promis aux Maliens d'organiser les élections et de laisser les choses se faire sans leur participation. C'est très clair. Donc tout cela fait que les autorités de la transition ne sont pas éligibles aux élections. Ça, c'est aujourd'hui. Continuons les discussions, ne faisons pas de procès d'intention. Continuons les discussions, entendons-nous sur quelque chose, avançons. À chaque jour, suffit sa peine.
À chaque jour, suffit sa peine. On va justement observer, suivre cette situation, cette actualité de près. Et parlons toujours de la transition, le dialogue intermalien proposé par le président de la transition. Est-ce que pour vous, on n'a pas, les Maliens ont beaucoup parlé ces temps-ci. Est-ce que ce n'est pas un dialogue de trop? Je ne sais pas.
Moi, je
il y a
pense...
l'accord d'Alger qui est là, peut-être pour parler entre... pour permettre un dialogue entre le gouvernement de transition et puis les ex-groupes armés. Alors, il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu les assises nationales de la refondation.
Oui, mais ce n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Aujourd'hui, de fait, la situation des rapports de force a évolué. L'État malien, à travers les forces armées de sécurité, a une présence, on va dire, majoritaire sur le théâtre des opérations au nord. Les groupes rebelles ne sont pas visibles. Cette réalité-là, qui est la réalité de terrain, elle s'impose forcément dans les discussions politiques à faire. Ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte. Deuxième élément, la volonté d'internaliser les discussions. C'est la première fois que ça apparaît. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Troisième élément, la volonté d'élargir des acteurs qui doivent parler. Non pas seulement un tête-à-tête entre le gouvernement et les rebelles, mais les forces vives du pays, les associer sous une forme ou une autre. Moi, je trouve que c'est positif. Seulement, la raison pour laquelle j'ai mentionné cela dans mon appel pour sauver la transition, c'est qu'il faut éviter que ce dialogue soit un monologue. Que ce dialogue soit simplement un moyen pour les autorités de la transition d'obtenir ce qu'elles veulent en mettant en contribution uniquement les personnes qu'elles choisissent. Parce que ces personnes ont une position qui conforte un certain discours qu'on entend ici, qui est de dire il faut s'imposer par la force, il faut réaliser tout par la force, il faut tuer tout ce qu'on peut tuer. Moi, je pense que le dialogue, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi ce dialogue est une bonne initiative. Mais il faut l'aider pour d'abord qu'on parle à tout le monde, y compris à la CMA. J'ai dit, il faut que la CMA, on puisse leur parler. Deuxième élément, qu'on puisse parler aux Maliens qui se sont engagés dans l'aventure terroriste. Parce que ça, c'est un souhait des Maliens et au DNI et aux Assises. Et parce que les groupes terroristes aujourd'hui ont plus d'impact en termes d'insécurité que les groupes rebelles. Donc il faut qu'on puisse aussi les parler. Troisième élément qu'on associe à ces discussions, des organisations, des personnalités qui ont une connaissance de la situation qui est très importante et très profonde. Il ne faut qu'on fonctionnalise ce processus sans avoir rien contre les fonctionnaires, mais qu'on n'en fasse pas un processus administratif où on va réunir les gens un jour, après on va au niveau cercle, après on va au niveau régional, et on aboutit à des conclusions qu'on avait déjà fixées il y a quelques temps, quoi. Et je souhaite, s'il le faut, qu'on prenne plus de temps que les 2 mois que le président de la transition a annoncé.
Il faut un vrai dialogue cette fois-ci, quoi.
Pour moi, voilà.
Inclusif.
Bien organisé, bien inclusif, et essayant de traiter les causes profondes et les réalités profondes. Cela va aboutir à la nécessité de relire l'accord d'Alger et de le rendre applicable. Je pense que ça, c'est la conclusion majeure que nous attendons. Maintenant, le relier sous quel aspect, et ensuite, quel délai pour appliquer totalement cet accord rémanié.
Monsieur le Premier ministre, parlons...
Le dialogue sera utile pour ça.
Oui, vous êtes expert comptable hein, aussi. Hein. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes dans des secrets, les secrets de Dieu, comme on dit, hein, l'état des finances aujourd'hui, est-ce que... Il y a de l'argent. Est-ce que l'argent, là, est-ce que je vous pose cette question? Parce qu'ils sont nombreux hein, qui disent hein, que le pays est cher. Ça, même le non-spécialiste le dit. Mais vous êtes un expert, hein, vous avez été Premier ministre, donc vous connaissez ces questions-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu si c'est inquiétant, non, l'économie?
Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de chiffres sur la situation des finances publiques, sur l'économie, il ne s'agit pas d'être même dans le secret des dieux. Beaucoup de choses sont publiques. Le budget d'État est public, son exécution est publique, mais les chiffres sont souvent rébarbatifs et beaucoup de gens voilà, ne veulent pas trop fouiller dedans. Sinon, beaucoup d'éléments sont vraiment publics. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans un contexte international difficile. Contexte international à la suite de la pandémie Covid-19, il y a eu une reprise forte de l'activité économique au niveau international qui a eu un impact très fort sur les prix. Okay. Les prix des matières premières, des produits de première nécessité, des produits alimentaires ont commencé à augmenter de manière très importante déjà en 2021. Okay. En 2022, nous avons eu la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux importants acteurs du marché international agricole. Et quand ils entrent en crise, les prix des produits agricoles augmentent, les prix des engrais augmentent, et nous étant des importateurs importants, l'inflation est importée chez nous. Ça aussi, ça a heurté nos pays. Et ça a eu vraiment des effets difficiles sur et les finances publiques, parce que les États ont été obligés de travailler à soutenir les plus faibles, de donner des exonérations pour faire baisser les prix, et donc ça a heurté les finances publiques. Troisième élément, nous sommes quand même dans un contexte sociopolitique et institutionnel exceptionnel. Nous sommes en période de transition. La période de transition entraîne la rupture des relations avec beaucoup de partenaires. Parce qu'il y a des partenaires dans leur texte, dans leur constitution, ils ne peuvent pas travailler avec les pays qui sont sous régime militaire ou qui sont en dehors d'un ordre constitutionnel. Cela aussi a privé le Mali de beaucoup de possibilités. Nous avons des efforts importants que nous avons faits pour la défense et la sécurité. C'est autant de moyens que nous avons enlevés de l'économie, des secteurs sociaux, pour le mettre sur le secteur de la défense. Ça aussi, ça a impacté. Si vous faites la somme de tout ça, nous avons la crise d'énergie. Crise d'énergie qui entraîne beaucoup de moyens de l'État pour essayer d'y faire face. Là aussi, c'est beaucoup de moyens en moins sur les secteurs sociaux et économiques. Quand vous ajoutez tout ça, vous avez un budget d'État qui est dans une situation très difficile et très précaire. Parce que nos ressources ne sont malheureusement pas importantes. Le pays Mali est un pays démuni, hein, même si beaucoup de personnes pensent ou disent autre chose. C'est ça la réalité des chiffres. Nous avons un budget grosso modo de 3 000 milliards. Sur ces 3 000 milliards, on a 1 000 milliards qui sont réservés au paiement des salaires. 1 000 milliards, la défense, la sécurité, la justice, l'éducation et un certain nombre d'autres secteurs. Le 1 000 milliards qui reste, il y a le remboursement des dettes et il y a d'autres types de dépenses telles que les dépenses d'investissement, construire des universités, faire des routes et autres. Ah, c'est fini le budget. Donc, l'État malien aujourd'hui est dans une situation financière difficile. Je l'ai dit, la situation financière difficile, nous avons vu l'apparaître depuis la période Ibeka. C'est le Covid, c'était la période Ibeka, et puis il y a eu beaucoup de difficultés dans la période Ibeka. La question essentielle, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Et là, moi, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts dans un certain nombre de domaines. Premier domaine, il faut qu'on cherche à augmenter nos ressources propres. L'endettement est une solution de facilité. Cherchons à augmenter nos ressources propres, les impôts, la douane, les ressources des domaines et autres. Il y a des marges de manœuvre dessus. Deuxième élément, diminuons nos dépenses, surtout nos dépenses de prestige, nos dépenses de fonctionnement. Et là, les autorités doivent donner l'exemple. Je l'ai dit, au moment où nous avons ces difficultés, le budget de nos institutions augmente, le budget de la présidence augmente, le budget du CNT augmente, le budget de la primature augmente. Il faut qu'on fasse des efforts pour ramener ces budgets dans des proportions, on va dire, économiques, où on va montrer à nos compatriotes qu'on fait des efforts. Je donne toujours l'exemple du CNT, où nous avons les membres du CNT qui, au lieu de percevoir 2 millions par mois, pourraient, par exemple, diminuer cela de 1 500 000 et se contenter de 500 000 par mois. Ça, ce serait des efforts importants à faire. Au Burkina, les membres du Parlement de transition ne sont pas payés. Ça, c'est un exemple. Les achats de V8, les biens importés, nous pouvons faire beaucoup d'efforts pour simplement montrer aux Maliens que nous avons envie de...
Est-ce que le budget permet quand même de payer les fonctionnaires pendant un bon moment, oui?
Oui. Nous avons 3 000 milliards et 1 000 milliards pour les fonctionnaires. Bon, c'est inquiétant parce qu'en termes de ratio de gestion, les ressources que nous mettons dans les salaires représentent plus que la moitié de nos ressources internes. Alors que les règles de gestion et de l'UEMOA, de la CEDEAO et les règles de gestion généralement reconnues, c'est qu'il ne faut pas dépasser 35%, un peu plus du tiers, de nos ressources internes dans les salaires. Parce qu'il faut dégager des ressources pour faire les routes, les ponts, les universités, mettre dans l'énergie. Mais nous, nos ratios sont dégradés parce que, bon...
Okay. Donc, bon, ça, voilà, monsieur le Premier ministre, on va parler aussi de l'énergie, la crise hein, de l'énergie EDM. Hein, et à ce moment précis, hein, nous sommes toujours dans le noir ici. Bon, ici, vous avez...
un groupe.
On arrive quand même à fonctionner. On a un groupe hein, donc, qui nous permet d'être en direct, mais l'ACI, hein, l'ACI 2000, hein, donc, est plongée dans le noir depuis... depuis 19h-20h, et puis des coupures d'électricité record sous cette transition. Ils sont nombreux, ces Maliens, qui demandent, qui n'arrivent pas à comprendre, parce que généralement, souvent, les délestages, c'est vraiment pas au mois de mars, c'est généralement au mois de mars, avril-mai, mais c'est pour la première fois en décembre.
Absolument.
Et jusqu'en janvier, hein, et on est dans les coupures d'électricité. Qu'est-ce qui se passe, Samara?
Comme le président de la transition l'a dit, et il a raison, il a raison de dire que la situation actuelle est la résultante de beaucoup de problèmes passés. Mais après avoir dit ça, il faut qu'on trouve les solutions. EDM, qui est la structure qui est en charge de la fourniture de l'énergie, est une entreprise qui est en faillite. Il faut le comprendre.
Le mot n'est pas fort.
Le mot n'est pas fort du tout. Et elle est en faillite parce qu'elle est structurellement déficitaire. EDM travaille à perte. Et depuis des dizaines d'années, ce n'est pas simplement depuis 2 ans. C'est-à-dire, elle produit l'énergie à un prix déterminé, on va dire, selon les sources d'énergie, entre 100, 160 francs CFA le kilowattheure. Et elle vend à un prix qui est inférieur à son coût de production, entre 90, 105, 110, 120 francs CFA, en fonction des tranches de consommation.
Okay.
Donc, chaque fois que EDM produit un kilowattheure, EDM perd de l'argent. Et quand elle produit des mégawatts, elle perd encore beaucoup d'argent. En 2022, EDM a perdu plus de 200 milliards de francs CFA en un seul exercice, c'est-à-dire en une année, 2022. Et ça s'explique parce que 2022, c'est l'année de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les prix des produits des hydrocarbures ont augmenté de 40%. EDM fonctionne avec beaucoup d'hydrocarbures, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui consomment des hydrocarbures. Okay. Donc, il y a d'abord ce déficit régulier de plusieurs années qui s'est ajouté pour faire la fameuse dette de 600 milliards dont la ministre a parlé. Aujourd'hui, EDM doit au moins 600 milliards à ses fournisseurs. Deuxième élément, nous avons un mix énergétique qu'il faut changer. Nous produisons de l'énergie avec des barrages. Nous produisons de l'énergie avec des groupes. Mais la proportion de production avec les groupes est supérieure à la proportion de production avec les barrages. Parce que la quantité d'énergie dont nous avons besoin augmente d'année en année.
Okay.
Et le thermique consomme des hydrocarbures, en plus du fait que ça a un impact sur le climat. Nous devons orienter notre mix énergétique vers les renouvelables, plus de barrages, mais aussi le solaire. Et ça, nous devons le faire. Ça prend un peu de temps. Et ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord de trouver de l'argent pour que EDM puisse éponger au moins une partie de ses dettes, afin que ses fournisseurs puissent lui donner du carburant en grande quantité. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver des moyens de restructurer EDM pour que les prix d'énergie, on les augmente. La Côte d'Ivoire vient d'augmenter ses prix d'énergie. Parce que eux aussi, ils ont constaté que s'ils ne le font pas, ça sera difficile.
Okay.
Il faut combiner ça. Et il faut trouver des moyens d'investissement pour que dans les années à venir, progressivement, on puisse aller vers le solaire et on puisse aller vers les barrages. Maintenant,
puisqu'il n'y a pas d'argent,
vous l'avez face dit, à cette situation-là,
la situation financière est précaire, vous l'avez dit.
Exactement. Donc, c'est pourquoi moi je pense que l'énergie est peut-être aujourd'hui, la question énergétique est peut-être aujourd'hui le défi le plus important de la transition. En tout cas, la menace la plus importante sur la transition. À défaut de trouver des solutions immédiates, pour moi, on va être dans le délestage encore quelques temps. Je ne sais pas exactement quand, mais encore quelques
temps.
C'est pas encore fini. Et encore, vous l'avez dit, nous sommes dans la période où le temps est clément. Dans 2 mois, quand on sera en mars ou en avril, ça sera un peu plus compliqué. Face à cette situation où on n'a pas d'issue à court terme, ce qu'il nous faut, c'est de communiquer vis-à-vis des Maliens pour d'abord leur dire la réalité profonde, complète du secteur. Et ensuite, les mesures qui sont prises pendant cette période-là pour atténuer les impacts de cette situation et enfin ouvrir des perspectives sur l'après. Et l'après, ce sera l'après-transition. C'est pourquoi il faut qu'on se parle. Parce que si les autorités seules portent ce discours, le jour où il y aura des difficultés, elles seront toutes seules face aux Maliens. Mais si les autorités, avec les forces vives, avec les acteurs politiques, avec la société civile, viennent ensemble devant les Maliens pour tenir ce discours, pour moi, il y a des chances qu'ils puissent comprendre
Mais là où, et ils puissent aller de l'avant. Là où l'opinion ne comprend pas le discours des autorités de la transition, c'est que un président qui dit que c'est la gestion qui acquise carrément la gestion antérieure des autres pouvoirs, des autres régimes. Mais si Ibeka disait non, ce n'était pas de ma faute, c'est la faute de ATT. Ou ATT disait ce n'était pas de ma faute, c'est la faute de. Est-ce que ce cycle-là. Parce que quand on gère,
cette phrase, elle est vraie, je l'ai dit. Mais elle n'est pas suffisante. Okay. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le secteur, c'est la succession de beaucoup de problèmes qui remontent au passé. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai eu à dire, moi, sur un plateau, que chaque année, EDM demande des subventions à l'État. Parce que l'État fixe le prix moins cher que les coûts. Donc, la différence, c'est l'État qui doit payer. Et le gouvernement s'engage à payer, mais le gouvernement ne paye jamais le montant exact. Et c'était le cas de mon propre gouvernement. Donc, nous sommes tous en partie responsable de ce qui arrive. Mais ça, ça ne suffit pas. Il faut que maintenant nous disions tous ensemble qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut ouvrir comme perspective demain. C'est ce que je demande à la transition. C'est-à-dire, il faut qu'on se parle et qu'on se dise, face à cette situation, allons vers nos compatriotes pour dire d'abord la vérité, complète, totale. Dire ce qui peut être fait maintenant, comment les situations vont évoluer maintenant, et ensuite, quelles sont les perspectives qu'on ouvre ? Parce que l'impact est extraordinaire. Sur l'économie, l'impact est dévastateur. Mais sur le social, les hôpitaux, on a les morgues qui ne fonctionnent pas. Les centres de santé communautaires qui n'ont pas de groupe dans les quartiers. L'essentiel de nos compatriotes vont vers les centres de santé communautaires. Donc l'impact social est extraordinairement lourd. Les universités où les micros ne fonctionnent pas, où donc les enseignants ne peuvent pas donner les cours à 1000 ou à 2000 étudiants en même temps.
Dans la capitale, par exemple.
Le fait qu'il y ait du noir partout, c'est des sources d'insécurité. Donc l'impact économique, mais aussi et surtout l'impact social est incommensurable. Si nous ne communiquons pas tous ensemble, sérieusement et réellement, moi je pense qu'il peut y avoir des problèmes quand on sera dans la période chaude et en plus dans la période du Ramadan.
D'accord. Parlons de justice, lutte contre la corruption. Ils sont nombreux, ces personnalités qui sont aujourd'hui en prison. Et il y a d'autres aussi qui sont en prison pour des opinions. On parle d'atteinte au crédit de l'État. Ces arrestations d'activistes, hommes politiques et leaders religieux. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Moussa Mara ? Ça vous inquiète, non ?
C'est inquiétant.
C'est devenu compliqué de parler aujourd'hui.
C'est inquiétant. Et je vois cette question sous deux angles. Le premier angle, pour moi, là aussi, nécessite que nous convainquions nos autorités et que nos autorités s'ouvrent à cela. Qu'au moment où on appelle au rassemblement, les autorités, leur discours, c'est les Maliens, unissons-nous, rassemblons-nous. Au moment où on appelle au rassemblement, on ne peut pas priver les gens de parole. que les gens s'expriment, qu'ils donnent des opinions, que les opinions soient divergentes, ça participe aussi du rassemblement. Le rassemblement, ce n'est pas une union de béni oui-oui. Ça, ce n'est pas un rassemblement. Donc, il faut qu'il y ait politiquement des discussions sur cette question de liberté d'expression. Je ne parle pas de la justice, politiquement. Et ça nécessite que nos autorités comprennent que d'abord, nous sommes un pays où des gens sont morts pour la liberté d'expression. Et nous sommes un pays où la liberté d'expression, de toute façon, on ne peut pas la brimer. Si on essaye de le faire, on va avoir d'autres moyens d'expression dévastateurs que le fait de se parler. Donc, il faut qu'il y ait ce dialogue, cette discussion pour obtenir que le climat soit plus léger, plus ouvert. Ça, je pense que ça, c'est une étape qui est nécessaire. Sur le plan de la justice maintenant, moi, je ne commente pas et je ne critique pas la justice. J'ai un profond respect pour les juges. Mais je pense que nous avons une utilisation de la détention préventive dans notre pays qui est à questionner. La détention préventive, ce n'est pas une condamnation. Mais au Mali, c'est considéré presque comme une condamnation. Quelqu'un, on l'a mis en prison, donc la personne est un voleur, la personne est coupable d'eux et c'est fini. On doit davantage réglementer, organiser la détention préventive. On doit fixer un délai. Il y a l'exemple de quelqu'un au Kenya qui a été responsable de la mort de plus de 400 personnes. Mais au bout de 3 mois de détention préventive, la justice est en train de libérer cette personne-là parce que là-bas, c'est limité. Nous avons aussi à organiser des procès rapidement. Ça, c'est pour faire le parallèle avec la lutte contre la corruption. Oui. Ce n'est pas parce que les gens sont en prison qu'ils sont coupables. Il faut qu'on fasse les jugements rapidement pour que quand les gens sont innocents, ils puissent recouvrer leur dignité. Et si les gens sont coupables, ils puissent maintenant purger leur peine. Quoi. Et ça aussi, nous avons à organiser. Et je salue d'ailleurs la présidente qui a été installée du pôle contre la corruption, qui a dit que l'un de ses objectifs, c'est de raccourcir les délais des jugements et d'organiser les jugements rapidement.
Oui, parce que certains sont en prison depuis 1 an, 2 ans, depuis plus que ça. 9 mois, qui n'ont jamais vu le juge.
Depuis plus que ça. Ça, c'est vraiment des réformes que nous devons apporter à notre système.
Et ce n'est pas normal. Hein, voilà. Et la loi sur la cybercriminalité, hein, est-ce que pour vous, c'est une loi liberticide? Non?
Moi, je ne le pense pas. Et j'approuve l'action que le procureur a faite hier avec la maison de la presse.
Oui.
Hier, il y a eu une conférence de presse. Le procureur est venu expliquer la loi sur la cybercriminalité.
Mais est-ce que ce n'était pas une campagne solitaire?
Que ce soit une campagne solitaire ou pas, c'est une occasion pour expliquer. Et la justice, elle est suffisamment réservée pour qu'on ne salue pas la volonté des acteurs de la justice de venir expliquer leur travail. Expliquer d'abord ce texte a été pris en 2019. Ce n'est pas un texte de 2021 ou 2022. Il a été pris pendant la période de l'IBK. Le pôle n'a été installé qu'il y a 6 mois. Donc pendant longtemps, la loi n'a pas eu l'occasion d'être appliquée. L'action de ce procureur, quand même, à terre, vous le reconnaîtrez, a permis de limiter les
insultes. On invite d'ailleurs, s'il nous regarde, hein, à venir expliquer.
Voilà, je pense que ce serait bien. Oui. Ce qu'il a fait hier est vraiment à saluer. Et il faudrait que d'autres juges, d'autres procureurs puissent sortir davantage et expliquer les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent et tout ce qu'ils sont en train de faire, qui sont aussi des applications de la loi. Donc moi, je ne pense pas que c'est une loi liberticide.
Oui, non, parce que souvent, je vous relance par rapport à la question, on peut recevoir ici, nous sommes un média qui exerce en toute souveraineté, on peut recevoir des invités, mais puisque cette même émission est en ligne, et puis souvent, on peut poursuivre des invités sur la base, hein, des propos en ligne. Donc c'est là où nous, souvent, on ne comprend pas aussi.
Voilà. Je pense qu'il faut des explications. Oui. Et il faut que celui qui est en charge de cette question continue les efforts qu'il a engagés hier. Okay. Mais il faut aussi saluer son action sur les insultes sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde reconnaît que ça a permis de nettoyer pas mal de difficultés qui étaient sur les réseaux sociaux.
Quelles sont vos relations avec le Premier ministre, Dr Chogalko Kalamiga, l'ancien Premier ministre, hein? Vous êtes tous des Premiers ministres, ça va?
Oui, mais Dr Chogalko Kalamiga n'est pas un ancien Premier ministre, c'est le Premier ministre en fonction. De notre côté, les rapports sont tout à fait fluides. Quand le Premier ministre a été nommé, il est passé me saluer à mon bureau, on a eu des discussions, j'ai donné les conseils que j'ai estimé utile de donner. Et là encore, sur cette initiative, j'ai sollicité une audience pour passer le voir et continuer à discuter sur les voies et moyens permettant d'aider et de faire en sorte que la transition se passe bien. Dans la même veine, j'ai demandé des audiences auprès des autres institutions, comme je suis en train aussi d'essayer de rencontrer les acteurs politiques, la société civile.
Si vous devez rencontrer le président Assimi Goïta et s'il doit vous recevoir en une minute, quel sera votre discours?
Je pense qu'en une minute, ça va être difficile, mais c'est de le convaincre que la transition ne réussira que si on fait une unité véritable autour de la transition. Pas une unité dans les mots. On ne peut pas être dans appeler l'unité et agir pour éviter cette unité. Donc, il faut vraiment que réellement, sérieusement, nous nous donnions la main et lui dire, le rassurer que les acteurs politiques, la société civile, les personnalités sont tous désireux de l'aider et d'aider la transition. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui aime ce pays, qui n'est pas convaincue que la réussite de Mali de demain passera par la réussite de la transition aujourd'hui. Donc il faut vraiment que les autorités de la transition s'ouvrent, acceptent de discuter, d'entendre des choses qui ne sont pas agréables. Parce que quand on discute ou quand on dirige, forcément il faut entendre des choses qui ne sont pas agréables. Et de travailler avec tout le monde. Et cela encore, j'insiste, sans être dans le partage de postes, donner des avantages.
Vous n'êtes pas du tout.
On peut aider le pays. Le pays sans être en position. On peut parfaitement le faire, surtout en ce moment particulier où les situations sont difficiles.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que peut-être votre appel peut être perçu comme un clin d'œil, comme si vous voulez peut-être défendre ou venir en aide à une transition en difficulté.
Faut aider une transition en difficulté, Ataer. Si on n'aide pas la transition, qu'est-ce qu'on va faire? Si on laisse la transition s'enliser, s'étouffer doucement et avoir des problèmes, qu'à Dieu ne plaise, on peut se retrouver demain dans une situation comme les Soudanais sont en train de vivre. Un autre pays en transition et qui est aujourd'hui en quasi-guerre civile. Évitons toute possibilité qu'il y ait des dérapages dans notre pays, au sein de l'armée, au sein des autorités de la transition, entre les autorités de la transition et la population. Donc aidons-les. Moi, je n'ai pas de scrupule à dire que je veux aider et que toutes les bonnes volontés doivent aider.
D'accord. Parlons maintenant de la diplomatie malienne. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est une diplomatie qui gagne, c'est une diplomatie qui rassure, Moussa Mara?
Je pense que nous aurions pu avoir des rapports moins conflictuels. D'abord, avec nos voisins. En matière diplomatique, pour moi, la priorité la plus importante, c'est la géographie. C'est la géographie qui fait que nous sommes en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas y changer. C'est la géographie qui fait que nos voisins sont là. Donc, on peut, et ce n'est pas encore perdu, parce qu'en matière de diplomatie, il y a justement, on ne doit jamais dire jamais. Il faut qu'on travaille à améliorer nos relations avec nos voisins. Il faut qu'on travaille à améliorer nos relations avec les organisations régionales. Lui et moi, la CEDEAO et un peu plus loin, l'Union africaine. Ça doit être la priorité absolue de la diplomatie. Et en la matière, il y a des progrès à faire. Je vais dire ça comme ça.
Donc c'est diplomatiquement correct, on peut dire ça.
Mais voilà, je suis en train d'apprendre la diplomatie aussi.
Ok, vous amarrez votre candidature. Là, est-ce que souvent quand vous regardez dans le miroir, vous dites... peut-être mon tour est arrivé ou bien mon tour
Président, je ne sais pas. Non. Ataer, j'ai entendu un candidat dans un pays étranger dire un jour, tous les matins, j'y pense en me rasant. On peut le croire ou pas, mais je pense avoir posé des actes par le passé qui me donnent quelques crédits pour dire ce que je vais dire. Moi, je suis profondément croyant. Et je suis persuadé que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc si Dieu a décidé que Moussa Mara sera quelque chose demain, personne ne peut l'empêcher. Et si Dieu a décidé que Moussa Mara ne sera pas quelque chose, personne ne peut favoriser cela. Donc dès que vous êtes blindé par cette posture, vous avez un rapport plus que relatif avec les questions de pouvoir. Je vais me battre comme je l'ai toujours fait pour tout ce que j'ai entrepris. On se battra de manière régulière, de manière honnête et loyale avec nos idées. Nous viendrons dans les débats, Nous ferons des débats avec les candidats et j'espère que cela sera le cas. Je vous invite à les organiser. Nous allons parcourir le pays comme nous le faisons déjà depuis 15 ans. Nous allons aller à l'extérieur comme nous le faisons déjà pour expliquer que nous avons un projet qui est le meilleur pour le pays. Mais nous sommes intimement persuadés que, in fine, c'est le Seigneur qui décide.
C'est le Seigneur qui dit, mais vous allez justement aller à la rencontre de votre destin, peut-être le destin présidentiel. Vous direz, hein.
Oui, on le cherchera. Ah ben oui, moi j'ai déjà été candidat il y a un peu plus de 10 ans, en 2013. Oui. Et donc, le parti m'a fait la confiance de me choisir. Oui. Le moment opportun, on ira à la rencontre de nos compatriotes pour leur montrer notre projet pour le pays. Le projet du vrai rassemblement et le projet du vrai changement. Nous estimons que le rassemblement n'est pas encore effectif et le changement encore moins. Oui. Mais d'ici là, il faut qu'on travaille encore une fois à ce que la transition se passe bien.
Si vous serez président, les 100 premiers jours, quelles seront vos actions prioritaires?
La priorité absolue dans notre pays est d'ouvrir une nouvelle transition. Parce que après cette transition, il va falloir une transition de 5 ans où il faut rassembler. Je ne sais pas si c'est ici où je l'ai dit, mais moi je pense à une idée. L'élection présidentielle, c'est une élection à 2 tours. Si j'ai la faveur de mes compatriotes, le candidat qui vient en deuxième position, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, c'est de nommer ce candidat premier ministre. Ça ne s'est jamais fait dans notre pays. Ça, c'est un message formidable de rassemblement. Donc, le quinquennat, si nous avons la chance d'être aux affaires, sera un quinquennat d'abord de rassemblement. C'est la condition de base pour faire face à tous les enjeux de notre pays. La transition ne réglera pas les problèmes de notre pays. C'est clair, c'est des problèmes profonds qui nécessitent beaucoup de choses. Il faut qu'on se rassemble pour y faire face. Et je fais cette promesse-là. Demain, si nous sommes aux affaires, ce sera une autre transition que nous allons ouvrir, constitutionnelle, avec des idées précises pour mettre le pays sur les rails de la stabilité, de la sécurité et ensuite de la prospérité.
Oui, Moussa Mara, pour les on est à la fin de l'émission. Pour les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur Duliba TV News, qui nous regardent aussi au niveau des plateformes digitales, c'est quoi le message? On n'a pas parlé de Kidal, qui est l'armée qui est...
Ben on est tous fiers. On est tous fiers de l'État malien de nouveau pleinement à Kidal et de Kidal sous le contrôle de l'État malien. L'État malien en mesure, enfin, de donner les services que les Kidalois méritent. C'est dans ce sens que moi j'étais allé à Kidal en 2014 pour montrer que Kidal fait partie du Mali et donc nous devons amener les services d'eau, les services d'électricité, l'éducation, la santé à Kidal. Et ceux qui étaient là en ce moment-là ne l'ont pas attendu de cette oreille parce qu'eux, ils avaient une autre vision de Kidal comme leur chose, leur otage, et ça s'est malheureusement transformé en confrontation. Mais aujourd'hui, l'État est pleinement présent et nous disons bravo à nos forces armées de sécurité et bravo à nos autorités de la transition. Maintenant qu'on continue à étendre la présence de l'État sur le territoire et qu'on continue à étendre la présence de l'État dans le cœur des Maliens en rassemblant, en collaborant, en discutant et en mettant l'ensemble des Maliens sur les rails de la réussite de la transition.
L'espoir est permis?
L'espoir est absolument permis. Il ne faut jamais désespérer de notre pays. Moi, je pense que notre pays a des génies qu'il faut réveiller. Et je vais tout faire pour que le génie du rassemblement et de l'unité, on puisse le réveiller afin d'aller vers une période de transition stable, d'unité et de réussite, et ensuite maintenant ouvrir d'autres perspectives pour notre pays après la transition.
Merci à Moussa Mara, c'est la fin de
merci
cette
à toi, merci
toujours
à vous.
Toujours un plaisir hein, de partager un entretien avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis bon vent et pour votre candidature qu'on merci. Va suivre. Hein, qu'on va suivre.
Absolument. On va suivre. On compte bien. Merci.
Merci. Merci monsieur, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Duliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h et le samedi à midi. Rendez-vous est pris à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Au revoir.
liberté.